Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Au début des années 70, il y avait encore deux Yémen, dont celui du Sud, capitale Aden, socialiste et affilié à l'Union soviétique. Mais peu à peu, la propagande religieuse venue de Riyad a provoqué des conflits locaux armés qui ont dégénéré en guerre civile jusqu'à la réunification avec le Nord, dominée par la famille Saleh. Une situation qui a largement bénéficié aux salafistes, même lors du printemps 2011. Cette histoire récente et peu connue sert de toile de fond à un roman écrit par un auteur yéménite, Habib Abdulrahab Sarraoui, qui sort ce mois-ci chez Actes Sud et qui dresse un constat amer sur les dérives de la société yéménite sous influence religieuse rigoriste. À suivre également la revue de presse « Regard croisé sur Israël et le monde arabe » avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
Habib Abdulrahab Sarraoui, bonjour.
Bonjour.
Professeur des universités au département de génie mathématique de l'INSA, à Rouen, dans l'ouest de la France. Vous êtes né à Aden, au Yémen, et vous avez publié de nombreux romans, certains en arabe, la plupart d'ailleurs en arabe, et un en français. Et vous publiez « La fille de Souslof » chez Actes Sud, dans la collection Sinbad, publication en arabe, traduite en français, bien entendu. Alors, dans ce roman qui se passe pour l'essentiel au Yémen et un petit peu aussi à Paris, le narrateur évoque son adolescence et sa période de jeune adulte au début des années 70 à Aden. Le Sud-Yémen est alors, et c'est assez curieux, une république socialiste.
Et c'est une période qui est complètement obscure pour les gens ici, mais pour beaucoup de monde aussi, parce que il y a eu un mélange inhabituel et qui ne se répétera peut-être jamais. Donc, c'était à la fois un pays socialiste scientifique, donc qui a aussi mélangé parfois des expériences maoïstes, même des copies du Cambodge de l'époque, et puis beaucoup après l'aspect soviétique qui a dominé. Mais tout ça s'était mélangé d'une manière incroyable. Donc des tribus qui ne connaissaient rien, des gens qui étaient quasiment analphabètes, et du jour au lendemain, ils répètent le mot dialectique à toutes les sauces. Donc une fois sur 100, c'est de la bonne place, et 90% c'est pour remplacer n'importe quelle variable mathématique à n'importe quelle valeur. Par contre, bon, on peut se moquer de cette période-là, mais en fait, c'est quasiment la meilleure période si on prend l'évolution jusqu'à aujourd'hui. Vu la régression qui a suivi, c'était une période finalement qui a apporté beaucoup de choses, beaucoup d'acquis sociaux. L'alcool, ça se buvait dans la rue. Qui pouvait imaginer?
Il y avait des fabriques de bière.
Il y avait Syrah. Syrah, c'était une bière locale. Les gens étaient fiers d'avoir leur bière locale.
Alors, c'est en raison de cette époque particulière que votre livre s'appelle La fille de Souslof. La fille de Souslof, c'est la fille d'un dignitaire de cette époque qui, lui, a étudié, c'est ça, à Moscou?
Oui, en fait, Souslof, à l'époque, c'était le directeur de la section idéologique du Parti communiste soviétique. Mais c'était un sobriquet, enfin, sobriquet pour la personne du roman. Mais c'était aussi une métaphore pour tous ceux qui ont la langue de bois, qui sont des idéologues purs et durs. Et comme c'était lui le roi des idéologues, donc c'était, on appelait quelqu'un Souslof quand il était bédant, il répétait les mêmes slogans qui avaient les effigies du Lénine partout, etc.
Alors la fille, on y reviendra peut-être plus tard.
Oui.
Votre narrateur, lui, oui, qui n'est peut-être pas vous ou qui est peut-être vous un peu, décide à un moment donné de poursuivre ses études dans un pays occidental. Alors il a le choix entre la France et l'Allemagne de l'Est, donc l'Allemagne démocratique à l'époque. Pourquoi choisit-il la France et qu'est-ce qu'il découvre?
Le narrateur, donc, à 14 ans, il y avait une évolution majeure dans sa vie a basculé grâce au livre de Georges Bolitzer qui existait partout à Aden. C'est un philosophe marxiste qui était très connu à l'époque, qui était enseignant de l'université ouvrière ici. Donc le narrateur était marqué par un cours qui a complètement bouleversé sa vie. C'était la deuxième loi du matérialisme dialectique de Hegel. La transformation quantitative amène vers une transformation qualitative. Donc pour lui, c'était évident que bon, donc quand il lui a donné le choix entre la RDA et la France, il a choisi la France parce qu'il aime le coucher de soleil. Pour lui, il a envie de voir à ses propres yeux la fin du capitalisme, parce qu'après, il a toute la vie jusqu'à la fin pour vivre le socialisme, pour le bâtir. C'est ce qu'il pensait réellement.
Et en réalité, lorsqu'il découvre la France, il tombe finalement amoureux de ce pays.
Complètement. Donc
de
coup,
Paris, en tout
du
cas.
Coup, voilà. Du coup, ça a changé entièrement. Il est resté fidèle aux idées humanistes du progrès, mais d'une autre façon. Et grâce à son arrivée en France, et grâce aussi à sa compagne.
Alors sa compagne de l'époque, qu'il découvre à Paris, avec laquelle il se marie, qui s'appelle Nagat. Donc il vit avec elle pendant une vingtaine d'années, et puis un jour elle est victime d'un attentat.
Exactement.
Au milieu des années 90, à Saint-Michel, me semble-t-il.
Exactement, oui.
Et donc là, pour lui, la vie bascule, et il décide de retourner ponctuellement au Yémen. Et alors là, il découvre un pays qu'il ne reconnaît plus.
Il a commencé à avoir une vie qu'il ne reconnaissait plus. C'était plus l'époque socialiste, c'était plutôt l'Yémen unifié, mais unifié avec un régime de Saleh, qui était un régime obscurantiste, finalement, antidémocratique, patrimonial. Et ça, c'est tout le problème majeur de ces régimes-là, comme la Syrie, comme le Yémen. C'est des régimes qui sont patrimoniaux, c'est très très compliqué.
Et alors, il fait une rencontre absolument incroyable. C'est là, ça nous ramène à la fille de Souslov, donc du début. Il rencontre cette prédicatrice salafiste. Il croit la reconnaître. D'ailleurs, il la reconnaît au bout d'un moment. Et il a une relation amoureuse avec elle. Alors, c'est assez curieux parce que cette prédicatrice, elle a tous les éléments extérieurs de la personne extrêmement rigide. Et pourtant, elle n'hésite pas à avoir cette relation amoureuse alors qu'elle est déjà mariée avec un imam.
Ouais, en fait, c'est le sommet de contradiction, cette fille-là. D'abord, il la connaissait à l'époque à Aden, mais ils n'ont pas eu une discussion. Ils avaient des relations amoureuses. Et c'était une fille qui a souffert toutes les contradictions du régime du Sud via ses parents. Le marquait, et du coup, elle était quasiment le proie des salafistes. Ils ont réussi à le choper, une fois qu'il y a eu la guerre au sud, qui a fragilisé complètement l'expérience socialiste. Donc cette fille-là, elle passe chez l'Empire du Mal, c'est le sommet du salafisme, le père spirituel du Bin Laden, si je puis dire. Donc elle a vécu chez lui, enfin, c'est sa fille, elle a réussi à l'avoir. Et puis elle est devenue, avec un lavage de cerveau incroyable, au bout d'une semaine, elle est devenue ce qu'elle est devenue après.
Donc une prédicatrice salafiste extrêmement dure.
Extrêmement dure.
Qui manifeste dans les rues en faveur de 4 femmes pour un homme, etc.
Et ça, ces manifestations ont existé. Donc c'est pas, il y avait parfois des manifestations avec du noir absolu, des océans de femmes qui avaient des slogans de ce type-là. Donc effectivement, elle peut être parmi les chefs du séjour des manifestations. Elle était même quelqu'un qui avait un rôle clé dans le virement de cette révolution du printemps vers le salafisme, vers le religieux qui a réussi à étouffer les slogans du base et les objectifs du base de la révolution.
Est-ce que vous montrez aussi dans le livre, qui est, rappelons-le, une fiction, mais qui repose aussi sur des choses assez réelles, c'est la dichotomie finalement entre ce que montrent les tenants de cette pratique de la religion, le salafisme en l'occurrence, donc une image extrêmement rigide en apparence, et puis derrière, il y a par exemple l'imam Omar qui tous les soirs boit son whisky, ou évidemment Amat, donc la jeune femme, la fille de Souslov, qui elle pratique l'adultère.
Oui, en fait, toute l'hypocrisie est quand même bien montrée. Et ce qu'on a montré, c'est l'ingénierie de ces salafismes pour manipuler les gens. Et en fait, il ne faut pas oublier que ces gens-là, ils étaient toujours les pions du despote, du régime politique. Donc la religion, c'est souvent une façade, une vraie façade, mais ils ont des siècles d'expérience pour l'utiliser pour le besoin du dictateur. Donc, j'y crois pas, moi, leur aspect religieux. Et en fait, en plus, c'est le royaume de l'hypocrisie, comme vous l'avez constaté. Et ces gens-là, effectivement, ce qui est dans le roman, c'est pas une fiction complètement inventée. Elle a ses bases de la réalité.
De même que dans la réalité, vous décrivez par exemple toute la pratique sur les réseaux sociaux. Alors, vous utilisez un terme, vous dites le laboratoire des ignominies. Donc, c'est un ensemble d'adeptes qui se liguent sur Facebook pour démolir toutes les
absolument. Moi, j'ai
toutes
suivi
les pages ouvertes, c'est cela.
J'ai suivi énormément ça à l'époque du début du printemps. Ils étaient très très organisés et c'était quelque chose donc qui arrivait à battre quelqu'un, qui arrivait à cultiver des idées. Ils utilisent les moyens, les nouvelles technologies bien mieux que les autres. Et ils sont très organisés. C'était clair à l'époque du la tombée de Morsi, au début du printemps arabe. Il arrivait à faire des slogans, arrivait à faire tomber des pages, et elle arrivait à cultiver des idées extrêmement réactionnaires. D'ailleurs, on voit très bien que ces révolutions-là ont commencé avec des slogans magnifiques. Le peuple veut tomber le régime. Ça les a troublés, ce slogan. La volonté du peuple, c'est quelque chose qui, il n'y a que Dieu qui veut. Donc, ils ont tout fait pour étrangler ce slogan. Pour d'abord, le peuple veut tomber le président, donc le régime. Et du coup, la rhétorique a viré d'une rhétorique plutôt moderne avec l'état civil, que c'est le mot que les gens utilisaient à l'époque. Le terme, c'est un état démocratique, un état de droit, qui n'est pas forcément l'état laïque que l'on parle, que l'on dit ici. Ce n'est pas forcément l'état de la liberté de conscience, mais qui s'approchait de ça, comme en Tunisie après.
Finalement, quelle est la morale de votre livre ?
En fait, la morale, c'est il y a plusieurs objectifs, si je puis dire. Bon, il y a l'ingénierie de ces gens-là qui était montrée à fond, en détail, comment ils ont réussi à transformer des Éthiopies en dystopie.
Donc les manipulations.
Les manipulations de tous les printemps, à l'exception peut-être de la Tunisie. Donc ça montre un peu le fond de leur pensée, cette hypocrisie qui est derrière, etc. Et puis, c'est un livre un petit peu d'espoir, parce que c'est un processus qui a démarré. Donc, j'y crois que, effectivement, même si actuellement c'est sombre, on n'y croit pas, enfin, on a l'impression que c'est fini. Non, c'est pas fini. Il y a des murs qui sont tombés. Il y avait des couches sédimentaires énormes, des océans de bastions tristes, comme dit Spinoza. Et tout ça, on peut pas en débarrasser comme ça une semaine, deux semaines, trois ans, dix ans. Mais le processus est démarré. Et le livre, il montre ce processus-là. Il ferme pas la porte parce qu'à la fin il y a une ouverture vers des possibles continuations, mais on voit en détail à travers une expérience qui est le Yémen, mais le schéma est le même à mon avis en Syrie, en Égypte, avec évidemment des variantes parce que quand c'est un régime patrimonial, donc c'est la catastrophe. Et ces régimes-là sont des régimes patrimoniaux. Après, ce qui est différent, c'est il y a des régimes où le fils a déjà pris le pouvoir, comme Bachar. Là, c'est la catastrophe totale. Il y a le régime comme l'Égypte, où le fils était préparé, mais il n'a pas réussi. Donc, la catastrophe était moindre. Et entre les deux, il y a le Yémen, où le fils était déjà un militaire aguerri, prêt à gouverner. Donc, on voit un petit peu une période de la vie des printemps arabes, d'une manière claire, mais sur en plus, c'est pas une manière romanesque. C'est pas un documentaire sur l'évolution de ces révolutions-là, mais ça donne, d'une manière microscopique, les premiers mois. Comment tout de suite ça virait, comment les forces de l'armée ont réussi à dévier la démarche, et comment surtout les salafistes ont étouffé ces révolutions-là. Mais ce n'est qu'une étape.
La fille de Souslov, écrit en arabe et traduit en français, est publiée chez Actes Sud dans la collection Sinbad. Vous en êtes l'auteur, Habib Abdulrahb Sarori. Vous êtes, je le rappelle, le professeur des universités au département de génie mathématique de l'INSA à Rouen.
Merci beaucoup.
لا بسم الله الرحمن على مسيري ولا مودي ولا شيطان على مسيري على مسيري لا بسم الله الرحمن على مسيري على مسيري ولا مودي ولا شيطان على مسيري على بسم الله الرحمن
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem rejoindre Alexandre Bouchanti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Et sans surprise, Alexandre, la visite du pape François en Égypte fait la une de la presse au Caire.
Oui, le pape de la paix visite le pays de la paix. C'est le titre qui revient le plus souvent dans les journaux égyptiens. Alors des journaux qui ne tarissent pas d'éloges, parfois dithyrambiques, sur le pape Francis, comme on l'appelle dans la vallée du Nil. Les journaux rappellent que le pape a déjà reçu le président Abdel Fattah el-Sissi et le grand imam d'Al-Azhar au Vatican. Il souligne l'excellence des relations entre le Caire et le Saint-Siège après le froid qui avait caractérisé les relations lors du pontificat de Benoît XVI. L'occasion aussi pour les journaux de se faire didactique pour expliquer aux 92 millions de musulmans les différences entre les églises orthodoxes, protestantes et catholiques, rappelant que l'Égypte compte 250 000 catholiques sur les 10 millions de chrétiens.
Une visite du pape en Égypte à suivre sur RFI. La tension à la frontière avec la Syrie est à la une de la presse israélienne, Michel Paul.
Il en est fini de la longue période où Israël tentait de camoufler ses attaques sur la Syrie, estime un éditorialiste israélien. Israël et la Syrie, poursuit-il, sortent désormais du placard. La Syrie reconnaît qu'elle a été attaquée et à Jérusalem, on confirme ses attaques. La question est de savoir où cela va mener, notamment face à la Russie. La presse israélienne titre dans les éditions du week-end sur le dernier incident en date, un drone apparemment syrien abattu par un missile patriote israélien sur le plateau du Golan et quelques heures plus tôt une cargaison d'armement en provenance d'Iran à destination du Hezbollah qui a été détruite à coups de missiles alors qu'elle transitait par Damas. Conclusion d'un expert militaire, la Russie joue un triple jeu. Elle fournit des armes à Assad, ferme les yeux sur le transfert d'armement iranien et syrien à d'autres éléments et accepte les frappes israéliennes. On marche sur des œufs, estime l'éditorialiste de Yediot Aharonot, un exercice périlleux qui demande des nerfs en acier.
Et bientôt, Michel, un visiteur en Israël très attendu.
Oui, Eric, pointez dans votre agenda la date du 22 mai. Le président Trump se rend en visite officielle à Jérusalem. Une date, font remarquer les commentateurs, qui n'a pas été choisie au hasard. À 2 semaines du 50e anniversaire de la guerre des 6 jours, qui marque pour les uns la date de l'annexion de Jérusalem-Est et pour les autres un demi-siècle d'occupation israélienne de la Cisjordanie. Selon la presse israélienne, une des promesses électorales du président américain ne sera pas tenue, pas de transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, mais peut-être une reconnaissance américaine du droit d'Israël sur le plateau du Golan. À suivre donc. Mekor Rishon, le journal des colons, estime lui que la droite nationaliste se prépare à contrer toute initiative de paix américaine.
Le terrorisme et l'ascension de l'extrême droite européenne, Alexandre, c'est le titre d'un éditorial du journal Al-Shak Al-Awsat.
Oui, l'éditorialiste Shamlan El-Aissa estime que tous les partis d'extrême droite européens, et notamment en France, ont profité des attentats revendiqués par le groupe État islamique pour appuyer leur propagande. L'éditorialiste estime que le cliché véhiculé par l'extrême droite et selon lequel les musulmans refusent de s'intégrer et s'enferment dans des ghettos, c'est une image fausse. Selon lui, cela ne concerne qu'une minorité extrémiste alors que la majorité des musulmans vivant en Europe sont bien intégrés au mode de vie occidental. Le problème, estime Al-Aissa, est que la confrontation avec l'extrémisme musulman n'est que sécuritaire et ne s'attaque pas aux causes du mal.
Et dans le journal Al-Quds Al-Arabi, une polémique autour d'une chanteuse qui a tombé le voile.
Oui, elle s'appelle Shahinaz, plantureuse. Elle s'était voilée il y a 9 ans. Elle a récemment décidé d'enlever son voile pour reprendre pleinement sa carrière artistique. Une décision qui a déplu aux conservateurs et aux islamistes qui ont véhiculé leur mécontentement par le biais des médias sociaux. Ils ont même affirmé que l'époux de la chanteuse l'avait répudiée pour avoir tombé le voile. Faux, répond l'administrateur de la page Facebook de la chanteuse qui se demande pourquoi tant de haine.
Un sujet très sérieux dans la presse cette semaine, Michel. Le Premier ministre Netanyahou a annulé une rencontre avec le chef de la diplomatie allemande car ce dernier avait rencontré les dirigeants de 2 organisations très critiques d'Israël.
Oui, beaucoup d'encre autour de cette affaire dont les grands vainqueurs sont, selon plusieurs commentateurs, les 2 ONG elles-mêmes, Betzelem et Rompre le silence. Dans un éditorial, le quotidien libéral Haaretz estime que cet incident diplomatique montre que Netanyahou n'est pas vraiment de droite. Il est surtout d'un grand cynisme.
Et pour conclure, votre photo du jour, Michel ?
Eh bien, c'est l'image du drapeau israélien, l'étoile de David, qui revient dans tous les quotidiens à quelques jours du 69e anniversaire de l'État hébreu. Et les journaux publient des chiffres. Le pays compte 8 680 000 habitants. La majorité des Israéliens sont contents de leur vie en Israël et ils estiment que les choses vont encore s'améliorer. Pas un mot sur le conflit ou les conflits dans la région.
Merci Michel, merci Alexandre et merci à François Porcheron qui réalise chaque semaine Orient Hebdo. Vous pouvez nous réécouter sur le site de la radio www.rfi.fr rubrique émission et nous retrouver sur notre page Facebook. À noter que ce samedi, l'émission de Valérie Nivelon, La Marche du Monde, est consacrée à l'Irak et celle de Marie-France Chatin, Géopolitique, fait le point sur Daesh en Irak et en Syrie. Restez bien à l'écoute de RFI, tout de suite un nouveau journal.